Alors, comme je l'ai annoncé, je vais donc donner lecture d'un texte que je n'ai pas écrit, hein, mais qui est celui de Madame Battistan, qui est professeure à l'Université de Haute-Alsace et qui a déjà, comme vous le savez sans doute, à son actif plusieurs publications concernant Marlène Haushofer. Madame Battistan est spécialiste de littérature suisse et autrichienne. Elle a notamment travaillé et publié des études sur Max Frisch. Et on lui doit un livre sur les lectures de l'identité narrative chez Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Marlène Haushofer et Sebald, notamment. Propos aujourd'hui est la fonction des paysages dans l'œuvre de Marlène Haushofer. Marlène Haushofer utilise les paysages campagnards de sa région natale, la Haute-Autriche, en les recomposant dans ses romans. Nous nous proposons de montrer ici comment les romans offrent une image très stylisée et préservée d'une nature idyllique mais menaçante, qui est le reflet de la vie intérieure des personnages féminins, le miroir de leurs sentiments et de leurs affects. Les paysages et leur composition, la fonction de cette nature mère et surpuissante, la relation avec les animaux, dont les figures tutélaires sont issues de l'enfance de l'auteur, la solitude de la femme dans et face à la nature, livrée à son destin, la séparation et la claustration seront abordées ici comme étant des fils conducteurs de toute son œuvre. Si elle fait la démonstration par l'utopie, ses romans se déroulent en partie dans un monde irréel et par des visions d'apocalypse, en faisant de la nature un non-lieu. Son travail d'anthropologie met en opposition le chaos de la civilisation et son confort matériel et l'innocence d'une vie proche de la nature. Le choix des images et des métaphores, le style ciselé et clair permettent à certains passages de frôler la contemplation mystique. Marlène Haushofer ancre toute son œuvre littéraire dans un espace naturel, inspiré des paysages de son enfance à Frauenstein en Haute-Autriche, au sud-ouest Steyr, qu'elle décrit tel qu'il se présente. La maison forestière, les chemins, les prés, la rivière. Tout le décor du roman Die Wand, mais aussi le jardin avec les oiseaux dans la mansarde, brassent des images de son enfance. Celles-ci sont tirées du lieu où elle a grandi, le domaine d'Effatspach dans l'Effatspachtal, où son père occupait le poste de garde forestier à Frauenstein. Dans cet univers de verdure idyllique et d'espace inespéré, pour elle et son frère, la fillette profite d'une grande liberté au contact des animaux et de la nature, au gré des saisons. Elle semble avoir grandi à l'abri du besoin, dans un univers familial protégé, et une nature et des animaux de ferme pour qui elle va développer un attachement particulier, au point que cet univers va devenir une composante idyllique et la marque de fabrique de l'espace en son œuvre littéraire. La petite Marlène s'attache surtout aux chats et aux grands chiens de la maison familiale, la maison forestière dans laquelle vit aussi la génération précédente de ses grands-parents. Elle reçoit une éducation classique, grandit entre une mère que l'on sait autoritaire, catholique et bigote, et un père aimant, mais en même temps colérique. Garde forestier de son état, il en impose à toute la famille de par son emploi et son statut dans la région. Marlène et son frère vécurent en symbiose dans cette nature, au milieu des animaux domestiques, dont ceux élevés pour les besoins alimentaires. Habitués aux travaux physiques en plein air, où le grand jardin potager familial est une composante vitale dans ce décor champêtre, les enfants ont un rapport privilégié et direct avec la nature et les saisons. C'est l'époque du vert paradis de l'enfance, avec un sentiment de quiétude, de tranquillité et de sécurité. C'est avec son père que la jeune Marlène a dans sa jeunesse une grande complicité. Il lui raconte des histoires extraordinaires après la sieste, et avec lui, elle imagine une suite fantastique à ses scénarios pittoresques. Elle fuit ainsi les conflits de la maison familiale en se réfugiant dans les livres. Grande lectrice, curieuse et sensible, elle développe très tôt un goût pour l'écriture. Lorsqu'elle est scolarisée à partir de 1930, à 10 ans, dans l'institution catholique des Ursulines de Linz, en internat, c'est la chute hors du paradis de l'enfance. Dans son œuvre littéraire, elle fait souvent appel, à travers de nombreux détails, aux animaux familiers, aux oiseaux, aux plantes, aux travaux de jardinage saisonnier, issus de la connaissance qu'elle en a développée dans son enfance. Le traitement de la composition de l'espace dans son œuvre, comme l'environnement forestier et les plantes également, montre la bonne connaissance par l'auteur de cet environnement. Elle doit ses connaissances également aux conseils avisés de son frère Rudolf, qui a fait des études de botanique et de biologie, et qui sera professeur à la Universität für Bodenkultur à Vienne. Dans toute l'œuvre, les paysages sont souvent de grands espaces montagneux faits de hauts sommets, de décors grandioses, alors que paradoxalement les titres de ses œuvres sont des métaphores de lieux clos. Ce complexe de claustration parcourt toute l'œuvre comme un fil rouge. Il ne concerne pourtant que les personnages féminins. Ces lieux clos sont de différentes natures. Ils peuvent se situer à l'intérieur d'une maison, une chambre avec la vision d'une porte dérobée, une pièce où l'on se retire pour y travailler seul, comme dans la mansarde, mais aussi en pleine nature, comme dans le roman d'Ivant. Tous les paysages présentent les mêmes caractéristiques, à mi-chemin entre le rêve, la fiction et des réminiscences de souvenirs d'enfance de l'écrivaine. Mais leur composition est cryptée, ils fonctionnent comme des projections de signes issus de l'inconscient des personnages féminins. Le paysage psychanalytique créé est ainsi un amas composite de signes, de couleurs et d'odeurs qui révèlent, malgré leur aspect kinesthésique rassurant, un profond état de mal-être des héroïnes qui ne vivent plus qu'à travers des images recomposées et qui y restent enfermées. Ce paysage intériorisé est symptomatique de la rupture avec une vie qu'elles ne supportent plus. Des éléments d'un passé heureux intègrent leur vie psychologique dans une compulsion de répétition. Des signes de mort sont la prémonition d'un échec annoncé, la perte d'un être cher, qui est souvent un animal, comme le chien et le jeune taureau dans Divant. La composition du paysage met ainsi en lumière les situations d'aliénation dans laquelle se tiennent les héroïnes, dont celle dans Divant n'a pas de nom. Elle souligne la domination du non-lieu dans l'univers narratif. Le paysage le plus grandiose est celui de la montagne dans le roman d'Ivant. Il conditionne le contenu et le scénario même du roman. Par leur agencement et leur mise en scène, les éléments du paysage ont un côté majestueux et familier. Mais ils ne sont pourtant ni protecteurs, ni rassurants. D'entrée de jeu, dans ce roman, la narratrice évoque un état de bonheur dépassé. Zum ersten Mal fand ich die Schlucht nicht reizvoll romantisch, sondern nur feucht und düster. Sogar im Hochsommer bleibt sie so, das Sonnenlicht fällt nie bis auf ihren Grund. Na Gewitterregen kriechen dort die Feuersalamander aus ihren Steinverstecken. Ils ne sont pas des lieux de bonheur ou de joie, d'espoir ou de vie insouciante dans un cadre décrit comme bucolique. Ils sont plutôt donc le reflet de la vie des héroïnes qui dénotent une difficulté à vivre et dont la vie de couple, la relation au masculin est un échec. Il souligne l'absence de lieu, le vide et également la perte. Ceci se reflète dans les manques, les peurs et les états d'âme incertains et fragilisés des héroïnes. La spatialité porte ainsi des marques de la fuite dans des paysages imaginaires ou des régions qui prennent, selon certains aspects, des allures surnaturelles où le temps est suspendu, mais où l'action, elle, reste dynamique. Tout comme la notion d'espace, la temporalité est elle aussi incertaine dans toute l'œuvre. En l'absence de données calendaires, elle reste non datée. La narratrice Tandy Vant aspire à un espace détemporalisé et à travers la dissolution du temps, elle vit dans un no man's land privé de présence humaine et de liens sociaux. Heidegger explique dans Être et Temps que la temporalité de l'être se manifeste dans l'espace, ce qu'on vérifie bien ici. Heidegger constate encore que la condition existentielle et temporelle de la possibilité du monde réside dans le fait même que la temporalité, en tant qu'entité extatique, a une sorte d'horizon. Sa conception de la temporalité réside donc dans l'instant et la notion de ductilité du temps, où le présent agit comme condensateur dans son rapport au passé et au futur. La conséquence de cette temporalité basée sur l'instant est un moi fragmentaire et fragmenté. On retrouve ces notions d'instant, de ductilité du temps et du moi fragmentaire dans toute l'œuvre de Marlene Haushofer. Ainsi, le temps est ici la quatrième dimension de l'espace. C'est une fuite dans un espace surnaturel dans lequel le temps est comme suspendu. Sans indication calendaire, donc, le roman glisse hors de la temporalité, car la conception du temps dépend d'une conscience humaine qui lui donne un cadre et dont la mort est la fin. Ce flou temporel renforce l'impression de claustration initiée par la majesté des paysages, contrastant avec l'absence de compagnie humaine pour l'héroïne. Le scénario qui se développe est donc un huis clos. L'espace extérieur fait office de miroir à celui intérieur des états d'âme. Ainsi, les aventures qui s'y déroulent y trouvent un cadre assez idyllique. Et c'est la perspective d'une liberté retrouvée par l'héroïne qui fait du lieu décrit un lieu de paix. roman d'Ivant est la description par l'héroïne narratrice d'une catastrophe qui l'a séparée du reste du monde par un mur invisible et transparent qui laisse voir le reste du monde figé et mort dans la vallée de l'autre côté du mur. Si les humains et les animaux sont morts, la nature continue de vivre comme dans un cauchemar de la dissociation. Wenn der Mann am Brunnen tot war, und daran konnte ich nicht mehr zweifeln, mussten alle Menschen im Tal tot sein. Und nicht nur die Menschen, alles war lebend, was lebend gewesen war. Nur das Gras auf den Wiesen lebte, das Gras und die Bäume. Das junge Laub spreizte sich glänzend im Licht. Cette ambiance de fin du monde est accentuée par des allusions à une ambiance de guerre atomique. Il y a ce passage où on lit au début de Divant, damals war immerzu die Rede von Atomkriegen und ihren Folgen. Et c'est ce qui précisément a conduit Hugo à accumuler des réserves dont elle va bénéficier, on le sait. On lit ici les préoccupations du quotidien de la guerre froide à l'époque de la rédaction du roman. Les préoccupations de l'écrivaine se projettent sur son héroïne dans un temps incertain. Pour y échapper, le processus d'écriture que l'héroïne narratrice entame par un journal quotidien lui sert de thérapie contre la solitude, le néant et le temps qui fuit. Au début, le paysage semble calme et pacifique, mais il va se transformer en récit de psychose. Comme dans La Peste d'Albert Camus, l'héroïne reste seule dans un monde qui lui semble beau et fascinant et qui cache pourtant des dangers partout, comme l'est la nature en fait. Les tâches quotidiennes et le déroulement des saisons montrent le cycle de la vie animale et végétale dans cet espace clos. Les animaux de compagnie qui entourent la narratrice sont un chien, une chatte et ses petits, et une vache errante qui servira de vecteur de survie. Les animaux de la forêt, eux, constituent un bestiaire classique décrit avec réalisme. Outre leur beauté, ils représentent un danger permanent réel pour l'héroïne et ses compagnons de vie. Dans le roman, tout comme dans la vie, la nature demeure hostile à l'homme dès qu'il sort d'une organisation sociétale qui le préserve. L'héroïne est revenue au stade de la chasseuse-cueilleuse pour assurer sa survie. La solitude lui pèse, mais le travail physique, quotidien, dans un climat hostile et rude, la libère temporairement de ses angoisses. Sa vie est conditionnée par le cycle de la nature, et la femme communique avec elle dans un rapport presque mystique. An jenen Tagen erinnere ich mich sehr deutlich. Ich sehe die Spinnfäden, die sich schillernd zwischen den Bäumen spannten, neben dem Stahl unter den Fichten, in der zitternden goldgrünen Luft. Die Landschaft gewann eine ganz neue Tiefe und Klarheit, und ich wünschte, den ganzen Tag so zu sitzen und zu schauen. La forêt est un leitmotiv de toutes ses œuvres, et dans sa réflexion, elle fonctionne comme élément féminin de l'inconscient et des pulsions. La présence de la forêt est saisissante, tout comme celle de la prairie, des fleurs en été et de l'eau, élément de survie indispensable. Le paysage enchanteur et apaisant crée une ambiance de sérénité où les éléments cités sont un plaisir pour les yeux, les oreilles et tous les sens. Ce paysage a donc des propriétés kinesthésiques. Der Wald lag dunstend in der Mittagssonne und warme Duftwolken stiegen aus den Latschen zu mir auf. Jetzt konnte ich erst sehen, dass die Alpenrosen blühten. Als rotes Band zogen sie sich über die Halden dahin. Es war jetzt viel stiller als in der Mondnacht, als läge der Wald schlafgelähmt unter der gelben Sonne. Ein Raubvogel zog hoch im Blauen seine Kreise. Lux schlief mit zuckenden Ohren und die große Stille senkte sich wie eine Glocke über mich. Petite précision ici. Peut-être pas inutile, les latschen ne sont pas des chaussures, hein, mais des kiefern. Le paysage est partagé en deux espaces distincts, le chalet en bordure de forêt où elle vit et celui sur les alpages. L'héroïne se rend de l'un à l'autre au gré des saisons. L'ambiance est différente dans la vallée, où elle demeure durant les saisons froides et les alpages qui constituent son refuge d'été. Le relais de chasse, ce chalet en bordure de forêt, est le point de départ de toute l'action où se déroule le quotidien et ses travaux nécessaires. L'alpage fait office de dimensions cosmiques qui se font avec le ciel étoilé. Si les lieux décrits deviennent des métaphores qui permettent à Marlene Haushofer d'ordonner ses scénarios et de faire passer des messages cryptés, ils comportent aussi leur antithèse. Durant l'été, surgit soudain un chasseur, sorti d'on ne sait où, qui tue le jeune taureau mis au monde par la vache, et aussi le chien qui veut le défendre. le contraste entre l'apparition du masculin qui signe la mort de deux de ses animaux et le monde maternel et la mini-société matriarcale qu'elle a construite peu à peu inscrit l'œuvre dans un réquisitoire contre la masculinité, comme l'a toute son œuvre par ailleurs. Le roman est donc aussi une tragédie existentielle. Le paysage de cartes postales idylliques se transforme peu à peu en scène d'horreur d'une rare cruauté. Cette scène où tout bascule constitue une rupture de l'idylle du scénario, l'amorce vers la fin de la vie. Elle renverse la symbolique des alpages. Ils ne sont plus seulement la transcendance, la stabilité et la pureté, le point de rencontre entre le ciel et la terre. Ils deviennent le théâtre d'actes barbares sans signification, comme l'est la nature par ailleurs, et comme le suggère la narratrice, comme l'est la société humaine, de laquelle elle se croyait coupée, préservée, et à laquelle elle pensait avoir définitivement échappé. Mais la vie arrache l'héroïne à la dépression et à la tristesse, et même la nuit devient alors un objet de beauté. Die Nacht war gar nicht finster, sie war schön, und ich fing an, sie zu lieben. Selbst wenn es regnete und eine Wolkendecke den Himmel verhüllte, wusste ich, dass die Sterne da waren, die roten, grünen, gelben und blauen. Plus on avance dans le roman, plus la communion avec la nature, les éléments cosmiques et le grand silence du tout est intense. Ces moments de sérénité contrastent toujours avec d'autres où la vie de la nature reste un danger permanent. Ainsi, la forêt et la gorge sous l'alpage sont peuplées d'animaux masculins, des cerfs, qui constituent un garde-manger, des chats, des renards, un homme qui tue. Le bestiaire qui est décrit avec force, beauté et précision cache lui aussi dans sa binarité un monde à double face. La beauté, la sauvagerie et la mort cohabitent dans cette nature luxuriante qui permet des liens sociaux entre le personnage et ses animaux. Si elle leur voue un grand amour, car ils sont de vrais compagnons sûrs et fidèles, la nature ne la libère pas pour autant de sa condition humaine qui lui pèse. Si elle bénéficie d'une totale liberté, sa survie dépend de l'organisation de son quotidien et des travaux qu'elle mène pour avoir de la nourriture. Ce sont les plantations de pommes de terre, de haricots. Pour survivre, la création d'un potager, la cueillette de fruits et de baies en bordure de forêt ou dans les clairières, l'approvisionnement en eau, la constitution d'une réserve importante de bois pour l'hiver, de foin pour la vache et son veau, etc. Tous ces travaux modèlent le paysage autour du relais de chasse et rythment sa vie en lui faisant endosser des tâches qui, dans les sociétés où elles existent, reviennent pour la plupart aux hommes, étant des travaux physiquement difficiles. La société matriarcale qu'elle a érigée passe aussi par la prise en charge de ses attributions. Elle parvient à mettre en place une vie en harmonie avec la nature, où sa propre survie est tributaire du cycle des saisons et dépend de la prodigalité de la nature environnante. L'organisation de son travail au gré des saisons pour exploiter la nature pour sa survie lui apporte une forme de plénitude, même si elle souffre parfois physiquement. L'héroïne est condamnée à sa vie de pourvoyeuse de survie et de mère, qui comprend sa nature de femme. Le roman montre le processus de ce devenir et davantage encore son identité plurielle, ses doutes quant à sa survie, ses problèmes physiques, ses interrogations psychologiques, son passé, ses angoisses sur sa situation présente et son identité de femme dans la société autrichienne de son temps. La Robinsonade féminine est doublée d'une interrogation profonde et attachante sur la condition physique et psychologique de la femme, sur son devenir dans une société qui peu à peu l'étouffe. Haushofer parvient ainsi à établir de manière feutrée un contraste magistral entre le cadre calme et idyllique et les drames qui se jouent entre les personnages et à l'intérieur d'eux-mêmes. Le contact direct avec la nature et surtout les animaux apparaît comme rassurant et apaisant. Toutes les femmes chez Marlene Haushofer recherchent le contact avec cette nature, le seul endroit où elles se sentent bien. Elle leur permet d'échapper à leur relation devenue difficile avec un partenaire masculin, un monde dans lequel elles se sentent devenues étrangères à elles-mêmes et où elles souffrent de leur relation ou non-relation. Aucune ne trouve de solution viable à son problème, et si elles ne disparaissent pas physiquement à la fin du récit, elles sont définitivement marquées par la solitude et l'absence de relation à autrui, ce qui est une autre forme de mise hors jeu. Le roman d'Ivant en est l'exemple le plus frappant. La proximité des animaux, et notamment la présence fidèle et bienveillante du chien, est récurrente. La vache, symbole maternel par excellence, fait office de mère pour l'héroïne. Elle incarne la fonction de la maternité liée à la sexualité et à la nature mère. La chatte dénommée Perle devient quant à elle la sœur et la compagne, avant de disparaître elle aussi tragiquement. Le grand compagnon de sa vie reste le chien. Le chien garde sa symbolique de personnage psychopompe qui rappelle le domaine des morts. Gardien du monde des disparus, il a aussi une fonction de guérisseur, toujours attentif au bien-être de sa maîtresse et gardien de sa sécurité. Dans chaque roman, Marlene Haushofer met un chien en scène. Dans celui de Dita Payton, Tua, le chien jaune qui apparaît dans le rêve de la porte dérobée, rappelle fortement Lux et aussi le chien de l'enfance de l'écrivaine. Ici, il prend une place véritablement humaine de compagnon de vie. In jenem Sommer vergaß ich ganz, dass Lux ein Hund war und ich ein Mensch. Dans ce paysage idyllique menaçant, le mur invisible, paroi transparente qui la sépare du reste du monde figé et mort, est le signe d'une rupture et d'une catastrophe qui a coupé le monde en deux parties, les autres et elle. Cette catastrophe silencieuse qui a mis en place cette dualité est d'une violence guerrière, mais elle s'est imposée de manière feutrée, impromptue et définitive. Fonctionnant comme un fantasme, le monde exclu a préservé la nature et détruit tous les êtres vivants. Le monde de l'héroïne se résume donc à l'espace, au paysage dans lequel se déroule, se joue l'action. Ce monde fonctionne comme une parenthèse au milieu d'un néant qui vient de se constituer presque sous ses yeux. Jusque dans ces merveilleux paysages, on lit chez Marlene Haushofer la notion de limite comme un important fil directeur. Cette limite invisible que franchit l'héroïne sans le savoir est un mur dans lequel elle se retrouvera enfermée, condamnée à la disparition, sans que cette disparition ne soit remarquée d'ailleurs. Elle se retrouve enfermée dans un monde vivant qui n'est peuplé que d'elle, seule face à l'irruption du masculin. Son existence est aussi d'ordre psychotique et le roman se place alors à mi-chemin entre le rêve, le fantasme, la vision et l'autofiction. L'enfermement dans un espace naturel très vaste, mais pourtant clos, suggère une fin étouffante, voire une autodestruction. Le franchissement du mur ouvre le récit sur un espace hors du temps et hors du monde humain, en tête-à-tête avec soi-même. Seule la violente scène d'intrusion masculine, à la fin, rappelle la polarité des sexes et la violence entre les êtres. Le fait d'avoir franchi cette limite met le personnage hors jeu et le précipite dans un autre scénario, dans lequel l'espace naturel idyllique constitue un monde sans retour en arrière possible et anticipe sur la fin ouverte, mais sans espoir, du roman. Une critique de la civilisation est sous-jacente à ce récit, comme à tous ceux de Haushofer, ainsi qu'une interrogation larvée sur la fin de l'humanité. L'œuvre fut ainsi un travail d'anthropologie pour l'auteur. Elle met en opposition le chaos de la civilisation et l'innocence d'une vie proche de la nature. Cette dichotomie reflète le fossé entre les sexes très bien rendu dans son œuvre, ici par la notion du masculin absent et de son intrusion brutale dans l'espace féminin par un acte de violence et de cruauté. Elle suggère un profond malaise et constitue une critique d'un ordre patriarcal dépassé, mais pourtant encore bien présent. Si Marlene Haushofer opte pour une démonstration par l'utopie, par des visions d'apocalypse, en faisant appel à la subjectivité, son œuvre véhicule un message d'anti-utopie. Elle parvient à mettre en lumière, de façon magistrale, la situation d'aliénation dans laquelle se trouve la femme, même quand elle vit en contact étroit avec la nature. Celle-ci signifie alors pour elle un refuge et une thérapie contre une vie humaine aliénée. Pourtant, la division du moi du personnage se reflète dans la division du monde dans lequel elle vit et sa personnalité sociale est morte, faisant partie de ce qui est figé de l'autre côté du mur. Elle ne se sent pourtant pas menacée par la nature omniprésente et parfois hostile. Elle opère plutôt un retour au sein de cette nature où elle trouve des signes de transcendance. Son animalité est sollicitée par les compagnons avec lesquels elle vit, ses chats et son chien, car rien à ce niveau ne met son intégrité physique ou mentale en danger. Le point commun de tous ces récits est que l'écriture apparaît comme un processus de reconnaissance d'un mal-être psychique, probablement vécu par l'auteur avant d'être traduit en scénario romanesque. Si l'écriture n'agit pas forcément sur ces femmes auteurs comme thérapie, Marlene Haushofer fait partager des angoisses tirées des abîmes d'une psyché fragilisée, et elle montre un vécu de femme par le dedans. Ce processus est à la base de la projection des paysages.